Midi 30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. J'ai 60 minutes chaque jour pour vous montrer que oui, la France bouge et que vous êtes les acteurs de ce changement. Et si à Noël, on commençait par remplir la hotte avec des jouets français? Oui, c'est possible. Il suffit de regarder les étiquettes de ce qu'on achète, maison traditionnelle ou nouvelle venue sur le marché. Vous allez voir qu'on a tout ce qu'il faut ici. Elle fête aujourd'hui ses 110 ans. L'horlogerie était sa spécialité. Magnetta est toujours là, mais elle s'est modernisée. C'est l'entreprise qui va bien, merci. Et puis vos gobelets en plastique peuvent finir ailleurs qu'à la poubelle. Leur nouvelle vie passe par GobUse. C'est la solution, c'est ça, la France qui bouge. Et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
3921, venez nous rejoindre, on vous attend comme chaque jour pour nous dire par exemple si quand vous faites la liste au Père Noël, vous aidez vos enfants à choisir, Anissa, des jouets français.
Et vous avez peut-être des questions à poser aujourd'hui aux invités de Raphaël Duchemin concernant ces fameux jouets français. N'hésitez pas, c'est maintenant qu'il faut composer le 3921, 50 centimes la minute, et c'est maintenant que vous pouvez également poster vos messages et vos questions sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Oui, parce que acheter français, c'est possible. On va vous le montrer avec nos invités pour les accueillir. Elisabeth Assayag est à mes côtés et Nicolas Chaban est notre coach aujourd'hui.
Bonjour Raphaël.
Bonjour à tous les deux, merci d'être là. Dans une semaine, le Père Noël sera en train de boucler sa tournée et au pied du sapin dans les familles françaises, au moment de l'ouverture des cadeaux, vous serez nombreux à avoir des jouets et des jeux français car la part augmente d'année en année. Elle devrait atteindre les 15% d'ici 2 ou 3 ans. Certains ont même senti, il y a quelques années, que les choses changeaient. Bonjour Jean-Thierry Winstel. Ah, il n'est pas avec nous, il est de l'autre côté. Bah, venez avec nous, on va vous accueillir. On a un petit problème tout simplement d'organisation. Bah, écoutez, j'attendais, je voulais parler d'abord évidemment des jouets avant de venir à notre invité qui est avec nous déjà installé dans le studio, Philippe Guédon, directeur général de King Jouets. Je voulais qu'on commence par parler des jouets avant de parler évidemment de ceux qui les vendent. Vous avez fondé Jean-Thierry Winstel en 1996, Bioviva, c'est ça?
Tout à fait.
Bon, alors votre credo, c'est fabriquer des jeux qui font du bien à soi, aux autres, à la planète. C'est ça l'idée générale.
C'est très bien résumé parce qu'on pense que le jeu est un outil formidable pour favoriser l'accomplissement des êtres humains en général, que ce soit les petits comme les grands, et qu'il faut une certaine cohérence. Donc une fabrication française, une vraie traçabilité, une vraie transparence et puis si possible le plus grand respect de l'environnement.
Alors racontez-moi, comment est-ce que vous est venue l'idée du tout premier jeu? Ça démarre comment dans votre tête?
Alors ça démarre, je suis dans les Caraïbes, à l'époque il fallait faire son service militaire et comme j'avais fait quelques études, j'ai eu la chance de partir mettre en place un parc marin et c'est sur place où j'étais dans des conditions idylliques que je me suis rendu compte qu'en fait, on travaillait trop sur les conséquences et pas assez sur les causes. Les conséquences, c'est le changement climatique qu'on connaît tous, la disparition de la biodiversité, mais les causes sont le comportement humain. Et donc je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut absolument trouver des solutions pour favoriser une prise de conscience, mais positive, enthousiaste, joyeuse, alors que j'étais pas joueur, sur mon bureau, je me souviens très bien, je me suis dit, il faut faire un jeu. Et de là a démarré l'aventure de Bioviva, le premier jeu. Bioviva a remporté tout sur son passage, il a été élu jeu de l'année aux États-Unis, en France, au Canada, il a le prix de la culture scientifique du ministère de la Recherche, le premier prix des éco-produits. Et c'est comme ça que l'aventure a démarré, alors que je n'imaginais pas créer une entreprise.
Oui, et aujourd'hui, vous avez une centaine de jeux, c'est
oui,
ça?
Oui, tout à fait. Et on a remporté encore un 28e trophée en 28 participations. Donc on est un petit peu les chouchous des jurys. Et puis la marque commence à être connue parce qu'à l'époque, vous pensez bien, une fabrication française avec un grand respect de l'environnement, on nous prenait pour des fous furieux. Aujourd'hui, ça y est, ça commence à rentrer dans les mœurs. Et puis je pense que les gens cherchent des valeurs, cherchent des belles histoires, puis cherchent des beaux produits aussi. C'est pour ça qu'on est là.
Alors, vous concevez à Montpellier, vous fabriquez du côté de Saint-Paul-Trois-Châteaux. C'est important, hein, justement, que de A à Z, tout soit tricolore.
Exactement. Alors, nous, c'est vraiment notre credo. Et puis, surtout, je voudrais dire que derrière les produits, il y a une aventure humaine. Parce que quand j'ai démarré il y a 22 ans, sans le sou, j'ai contacté une vingtaine d'imprimeurs. Aucun n'a répondu favorablement à mes contraintes environnementales que j'avais fixées, sauf un. Il avait mon âge, j'avais 26 ans, il s'appelle Ivan Zaratsky. Il reprenait l'imprimerie de son père. Et c'est comme ça que l'aventure a démarré, avec 3000 jeux. Aujourd'hui, il en fabrique près de 800 000 par an. Donc le partenariat, les valeurs humaines, franchement, ça peut compter. Et je pense que la proximité est importante.
Ouais, ça signifie que tout ce qui entre dans la composition, y compris de vos boîtes, vos pions hein, qui sont en bois, tout est vraiment français.
Alors on commence à avoir quelques difficultés, vu les quantités, notamment par rapport au bois, parce qu'en plus, notre exigence environnementale fait qu'ils doivent être labellisés FSC, Forest Stewardship Council, qui garantit que le bois est issu de forêts bien gérées, eh bien là, malheureusement, on est obligé de franchir la frontière à notre grand désarroi et d'aller en Allemagne où ils sont en capacité de produire les quantités dont on a besoin. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne cherche pas à rester en France. Donc, s'il y a des auditeurs qui fabriquent des dés en bois, ils sont les bienvenus chez BioIva.
Bon, bah, écoutez, l'appel est lancé. Elisabeth, le marché du jouet français. Alors, on va parler du marché du jouet, hein, vraiment, c'est-à-dire hors du jeu vidéo. On en est où, en gros ?
Eh bien, ça va plutôt bien, ça se stabilise. D'après la Fédération des commerces spécialistes des jouets et des produits de l'enfant, la part de marché des jouets français se situe actuellement autour de 11%, ce qui est quand même pas mal. Le jouet français, bon, ce sont à peine 460 000 euros de chiffre d'affaires, donc ça reste encore une niche. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils se regroupent. Hein, les fabricants de jouets essayent de travailler ensemble. Ils ont fondé une association il y a 4 ans, une association qui grossit de plus en plus. Donc c'est un jouet qui résiste bien.
Et le jouet français se porte bien.
Oui, il y a des marques emblématiques hein, que l'on connaît tous. Vous avez Je Jura, des jeux en bois, les peluches Calous, Moby, les moulages Mako que nous avions reçus sur Europe 1. Le Double, les poupées Corol ou le Milborn. Le secteur parie sur la différenciation hein, par rapport à tous les concurrents internationaux, par rapport à tous les produits de licence. Nous, on se démarque et on se différencie.
Oui, ça fait du bien, dites-moi, coach, non ?
Et je suis le plus heureux voilà, d'entendre encore une belle histoire. Alors, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Ça va progresser encore terriblement pour vos jeux faits en France parce qu'on le ressent, nous, à notre niveau, à travers ce qu'on a vécu avec C'est qui le patron. Quand on sait où va son argent, à quoi il sert, comment cet argent qui n'est pas facile à gagner va alimenter de l'emploi français, de la matière et des ressources françaises, ça donne un plaisir tellement plus grand encore que la simple consommation d'un objet ou d'un jouet. Donc je peux que, évidemment, vous dire un immense bravo.
Oui, parce que vous en avez vendu plus de 5 millions, c'est ça, des jeux BioViva depuis que vous vous êtes créé ?
Depuis le début, ça doit être à peu près ça. C'est plutôt pas mal. J'en profite juste pour dire que je suis le porte-parole de l'Association des créateurs et fabricants français qui, effectivement, se bouge terriblement, essaie de se regrouper.
C'est ça,
pour
vous étiez 4 il y a 4 ans, vous êtes plus de 40 aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Tout à fait.
Dites-moi, l'intérêt de la fabrication française, il est double, évidemment. On est ravis d'avoir des jouets français, mais on crée aussi de l'emploi ici, chez nous, en France. Vous êtes combien aujourd'hui ? Il y a de l'emploi direct, l'emploi indirect, puisque vous parliez de votre imprimeur aussi.
Alors, aujourd'hui, chez BioIva, on est 20. 8 créations d'emplois ces 2 dernières années. Une dizaine chez notre partenaire Graphote. Et pour rejoindre ce que dit le coach, j'ai coutume de dire qu'en fait, l'important, c'est de créer de la richesse globale, pas seulement financière, mais aussi sociale et sociétale. Et les fabricants français, aujourd'hui, en plus, devient économiquement rentable. Et on a une réactivité folle que n'ont plus les fabricants ou les distributeurs qui font fabriquer en Asie.
On reste ensemble, on continue à parler jouets français sur Europe 1.
Il est 13h09.
Europe 1.
Créer pour susciter l'imagination des enfants, c'est aussi l'ambition d'un nouveau venu dans le paysage français. Coxigru débarque cette année sur le marché.
La France bouge sur Europe 1 jusqu'à 14h tous les jours et la France fabrique des super jouets qui seront peut-être sous le sapin dans 7 jours. On en parle aujourd'hui avec vos invités. Raphaël Duchemin, vous pouvez bien sûr réagir, poser vos questions, témoigner, n'hésitez pas. On parle du jouet français au 3921, c'est le standard, et sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Et puis on a de la chance Anissa parce que vous êtes une testeuse hein, de jeux.
Ça, et le défi nature de BioViva, je le recommande à tout le monde, il est génial.
Bon, et bien vous allez adorer ce dont nous allons parler maintenant parce que si vos enfants adorent jouer aux jeux de société, que vous cherchez des nouveautés à mettre sur la liste du Père Noël, suggérez-lui d'aller découvrir Coxigru. Bonjour Céline Toledano.
Bonjour Raphaël Duchemin.
Merci d'être avec nous. C'est vous qui avez créé Coxigru l'année dernière, 2017. Racontez-moi, comment elle vous est venue l'idée de départ de vous lancer dans le jeu de société pour enfants ? Vous avez trouvé qu'il ne fait pas assez de choses sur le marché ?
Alors si, il y a énormément de choses sur le marché, il y a énormément de choses très bien, parce que moi j'adore les jeux de BioViva.
Bon,
mais moi j'ai deux filles qui sont aussi des grandes créatrices, qui dessinent, qui colorient énormément. Et j'étais assez démunie de voir toutes leurs créations et de ne pas savoir quoi en faire. Donc du coup, je me suis dit, bah, on va allier les deux, on va allier le jeu de société et le loisir créatif, on va les mettre dans un même produit. Et on va permettre aux enfants de pouvoir personnaliser leur jeu, d'en faire un jeu unique, puisqu'ils vont être les créateurs des cartes, c'est eux qui vont les décorer.
Donc l'enfant peut personnaliser son jeu, c'est-à-dire dessiner, colorier les personnages, l'environnement ?
Tout à fait, il colorie les plateaux et les cartes, il imagine et il dessine sur les cartes qui deviennent après des cartes à jouer, il colle des autocollants pour décorer, et il est hyper fier de pouvoir le faire et de jouer ensuite au jeu qu'il a lui-même contribué à faire.
Et est-ce qu'on peut dissocier les deux activités ?
Alors, les deux activités sont complètement dissociées. J'ai imaginé des jeux, après les avoir testés, où on pouvait jouer très rapidement. Parce qu'il y a aussi une partie des enfants qui sont impatients et quand ils reçoivent un jeu, ils trouvent ça super de pouvoir le colorier, mais ils trouvent ça super de pouvoir y jouer. Donc du coup, on peut tout à fait très rapidement jouer et faire la partie de loisirs créatifs dans un second temps.
Dites-moi, c'est un nouveau concept hein, finalement. Les enfants, c'est peut-être une tendance d'ailleurs, sont de plus en plus en demande d'activités manuelles. C'est ça aussi qui vous a poussé à faire ces nouveaux jeux ?
Alors, au moment où moi je me suis lancée dans la partie création d'entreprise, business plan, j'ai regardé un peu ce qui se passait sur le marché du jouet français. Et il se trouve que les deux segments qui étaient en croissance, c'était le jeu de société et le loisir créatif. Donc du coup, mon idée d'associer les deux, je me suis dit, elle doit être porteuse. Si ces deux secteurs-là sont en croissance, c'est que si on met les deux en même temps, ça devrait marcher.
Oui, il y a un peu comme pour les millénials, si j'ai envie de dire, hein, un besoin, une envie des enfants d'avoir quelque chose qui leur ressemble.
Oui, et puis la personnalisation, aujourd'hui, c'est quelque chose que tout le monde recherche. Enfants et parents, on a envie d'avoir... Son propre jeu ou autre chose, mais voilà ce qu'on a contribué soi-même à faire.
Que dit notre coach ?
C'est Noël aujourd'hui pour moi, parce que c'est un autre hommage à des valeurs qu'on défend, nous. On a, pendant des années, eu quelques personnes qui faisaient des jouets, des modèles économiques pour tous les autres. Là, quand on redonne la parole, en plus c'est d'actualité, vous voyez qu'il y a un besoin d'exister, de s'impliquer. La génération qui arrive, elle veut être acteur. Elle veut arrêter d'avoir juste un jouet inerte qui est encore un jouet ultra vendu. J'ai vu que c'était une horrible un petit camion rose qui était c'est un truc Barbie là, le plus vendu aujourd'hui l'année dernière.
Bon, on va en parler tout à l'heure.
Ça fait rêver les
petits. Guédon
nous dira ce qu'il en pense.
C'est un hommage à l'intelligence, encore une fois, individuelle. Et c'est pas mal qu'on redonne la parole aux enfants et c'est très bien ce que vous faites.
Bon, dites-moi, vous êtes commercialisé depuis le mois de septembre, c'est ça ?
Oui. Donc
comment ça se passe ?
À peu près un an et demi à les développer.
Oui.
Les jeux, ils sont arrivés en septembre. Et puis, j'ai reçu un très bel accueil de la part des revendeurs indépendants à qui je me suis adressée. Donc aujourd'hui, ils sont dans une quinzaine de boutiques en Île-de-France, et puis à Nantes et à Bayonne. Et puis, 2019 sera l'année du développement.
Vous avez quatre produits différents, quatre jeux. Hein.
Tout à fait, quatre jeux pour les enfants entre 4 et 10-12 ans. Donc deux jeux de cartes pour les plus petits à partir de 4 ans, et puis deux jeux de plateau à partir de 5 et 6 ans.
Et vous les faites fabriquer où, vos jeux ?
En France, bien évidemment.
Bon, à quel endroit ? N'hésitez pas, il faut le dire, c'est bien d'aider les entreprises françaises.
Les boîtes et les plateaux sont fabriqués dans la Drôme, chez un cartonnier. Les autocollants viennent de Bretagne. Les règles de jeu viennent des Pays de la Loire. Les cartes, une partie de Bourgogne, une partie de Paris même. Et les pions viennent du Jura.
Et oui, on voyage en même temps finalement avec vos
Tout
boîtes.
À fait.
Vous en avez vendu. Vous étiez au salon du Made in France. Hein, je
oui.
vous ai vu.
Ouais,
j'ai
ouais,
un jeu à
ouais,
la
ouais.
maison de Coxigru. Vous en avez vendu beaucoup. Vous commencez à vous faire connaître.
Alors, je commence à me faire connaître doucement et je vous remercie chaleureusement de m'avoir invité aujourd'hui. Oui, je commence à me faire connaître. Maintenant, je suis une toute petite qui arrive dans un milieu qui est déjà très bien implanté. Donc voilà, il va me falloir encore un peu de temps avant d'être une référence.
Ouais.
C'est super
Nicolas.
Important ce que vous faites, évidemment, ici, Raphaël, faire connaître les initiatives. Parce que, monsieur le disait tout à l'heure, on en reparlera.
Philippe Guédon, directeur général de King Jouet.
Les enfants ont tendance à vouloir toujours la même chose. Mais si on amène à leur connaissance, qu'on leur explique, qu'on leur présente d'autres choses, il y a quand même une chance qu'ils changent. Donc la pub à la télé, les grands groupes qui vous amènent toujours les mêmes repères ne permettent pas à des gens avec plus de talent et d'intelligence et de Made in France de se faire connaître. Donc voilà, c'est très bien qu'on en parle aujourd'hui. Il y a d'autres jeux que le jeu l'est. Et inerte rose que j'ai vu ce matin sur
bon,
Internet.
On a bien compris que vous aviez un problème avec Barbie. On va en parler tout à l'heure, Nicolas Chaban. On reste ensemble, on continue à parler du jouet français sur Europe 1.
Il est 13h18.
Europe 1.
Et si le Père Noël allait se servir chez un acteur français du secteur, chez les Guédon, on est dans le jouet depuis 1875, ça ne vous dit rien, mais si, je suis sûre que vous connaissez King Jouet. À tout de suite sur Europe 1.
La France bouge sur Europe 1 jusqu'à 14h et la France fabrique des jouets qu'on vous recommande, des jouets 100% bleu, blanc, rouge. On en parle aujourd'hui avec Raphaël Duchemin et ses invités. Vous pouvez continuer à réagir à cette émission. Vous êtes nombreux à poser des questions, à vous intéresser aux jouets français. Continuez, 3921, c'est le standard. Et Twitter avec le hashtag Europe 1.
Toujours avec Elisabeth Assayag qui m'accompagne et avec notre coach Nicolas Chaban, fondateur de la marque C'est qui le patron ? Alors il y a, vous serez d'accord avec moi, des familles où le jouet c'est une tradition, c'est le cas chez les Guédon. Bonjour Philippe Guédon.
Bonjour.
Merci, merci d'être avec nous. C'est au milieu des années 1800, hein, je le disais tout à l'heure, que votre famille a décidé de se lancer dans le jouet. Je crois que c'est Augustin à l'époque qui est aux commandes. On est à Voiron, toujours, en Isère. C'est là que tout commence, c'est là qu'est toujours l'entreprise aujourd'hui. Alors, c'est plus un bazar, en revanche. Hein. Ça a beaucoup changé.
Ça a bien, merci, un peu évolué.
Oui. C'est vraiment après la Seconde Guerre mondiale que le commerce de proximité va vraiment se développer pour vous, dans votre famille.
Oui, puis le marché du jouet, hein, beaucoup de produits qu'on connaît encore aujourd'hui ont été créés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.
Par exemple
Le Playmobil, oui. C'est dans les années 60-70. Vous avez des marques aussi françaises, on peut en citer quelques-unes, notamment Smoby. C'est aussi des groupes qui, à l'époque, étaient sur d'autres secteurs d'activité. Dans le Jura, ils faisaient des produits qui ont rien à voir avec le jouet, qui étaient toutes les créations en bois, notamment les pipes, oui. Célèbres du Jura. Et petit à petit, ces entreprises sont transformées, ont fait du plastique et notamment du jouet. Donc c'est à l'époque que l'entreprise familiale s'est petit à petit orientée vers ce type de produits.
Avec, pour vous, hein, dans votre famille, à l'époque, plusieurs enseignes. Il y avait Joupy en centre-ville. Et puis, 1989, King Jouet arrive pour la périphérie. Aujourd'hui, King Jouet, ça a pris de l'ampleur, évidemment. C'est 1200 personnes, un peu plus, je crois, même à la période de Noël, en ce moment.
Exactement. Alors, ce sont à la fois des magasins qui sont des succursales, donc des filiales de notre groupe. Mais ce sont aussi des magasins affiliés, donc des magasins indépendants. Et le tout représente environ 1200 collaborateurs sur le permanent. En fin d'année, c'est même un peu plus. Mais c'est 1200 personnes qui enfilent, donc c'est pas le gilet jaune, c'est le gilet rouge, oui. King Jouet tout au long de l'année.
Vous avez une stratégie à long terme, hein, je crois, dans le groupe King Jouet. Vous dites on va revenir aujourd'hui vers le centre-ville. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de retrouver des commerces de proximité, y compris pour le jouet.
Je pense que ça va un peu dans la continuité de ce qui est déjà le début de cet échange autour du jouet. La consommation évolue. Après, elle n'est pas unique. On y reviendra peut-être avec le coach. Elle reste multiple, en tout cas dans le jouet. Ceci étant, moi, je pense que le format de périphérie est arrivé un peu au sommet de la crête. Ça ne peut plus se développer. Aujourd'hui, on voit plutôt des magasins qui ferment et parfois même malheureusement des friches commerciales. Et à l'inverse, je pense qu'il y a une vraie attente, en effet, de formats plus petits, de proximité.
Vous avez commencé d'ailleurs à Lyon, à Marseille.
Exactement, on a déjà une dizaine de centres de magasins qui sont positionnés sur les centres-villes. Et notre objectif, c'est d'accélérer sur ce format sur les années qui viennent.
Dites-moi, le digital, c'est important aussi ?
Alors, c'est la deuxième composante. Hein. Centre-ville et digital, on a un peu fait le tour de la question. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont digitaux. On est tous avec notre smartphone entre les mains. On voit les consommateurs dans les magasins être constamment en train de regarder, de comparer, parfois d'appeler, tout simplement.
Vous y êtes mis assez tôt, 2009, hein, je crois.
Depuis 2009, on a un site marchand. Maintenant, il y a beaucoup d'autres outils digitaux qui sont apparus dans nos magasins. On fait de plus en plus, alors c'est un terme anglais, je ne vais pas me faire apprécier, mais tant pis. On fait de plus en plus ce qu'on appelle du store to web, c'est-à-dire que dans le magasin, le digital sert aussi les équipes, les vendeurs qui ont leur propre smartphone, qui peuvent comme ça mieux renseigner les clients, qui peuvent, le cas échéant, si le produit n'est pas disponible, indiquer aux clients si le produit est disponible dans un autre magasin de proximité ou quand le produit va être livré. Enfin, tout un ensemble, encore une fois, d'éléments qui permettent aux vendeurs d'être plus intelligents face aux clients.
Et alors, vous dites une chose assez étonnante, vous dites aujourd'hui on peut faire la différence sur un marché de mass market qui est le marché du jouet. Comment on fait justement ?
On est bien au cœur du sujet par rapport à ce qui s'est dit. Je pense que les commerçants spécialisés, King Jouet l'un d'eux, mais il y a d'autres enseignes en France.
Oui, on va les citer évidemment.
Le commerçant spécialisé doit amener de la différence, la différenciation et notamment dans l'offre. Et c'est pour ça que je pense que tout ce qui est justement création, production française, ça a d'autant plus de sens à être valorisé dans nos points de vente. Et ce que je voulais évoquer tout à l'heure, c'est le fait qu'on reste sur un marché qui est quand même un marché très marketé, sur lequel la communication, le poids de la communication est très fort pour les enfants, c'est bien, c'est mal, chacun a son opinion là-dessus. Et qu'en tout cas, souvent, la difficulté des créateurs ou producteurs français, c'est d'émerger, de se faire connaître. Et là, je pense, bon, il y a déjà quelques actions qui ont été faites entre les deux fédérations, celle des commerçants spécialisés et celle des créateurs et fabricants françaises, que c'est un peu dans cette voie-là qu'il faut s'inscrire, à ce que les deux se soutiennent, se supportent, dans le bon sens du terme. Je pense que c'est un intérêt réciproque, encore une fois, là où nous, on veut sortir des produits qu'on trouve de partout, que ce soit sur les sites internet, ce qu'on appelle les pure players, enfin les Amazon et autres, pour ne pas les citer. Bien sûr, en hypermarché, parce que le jouet est présent en hypermarché. On retrouve aussi de plus en plus maintenant les jouets chez des discounters. Un certain nombre d'enseignes, on ne va pas les citer là, mais se mettre à vendre du jouet, pourquoi pas? On est dans un système libre, chaque commerçant peut faire ce qu'il souhaite. En tout cas, il faut que le commerçant spécialisé amène autre chose, plus. Et je pense que cette valeur ajoutée en termes de situation, c'est le centre-ville, mais aussi en termes d'offres, et ce sont les produits créés ou fabriqués en France, c'est dans cette voie qu'il faut s'inscrire.
Elisabeth, du côté des fabricants, puisqu'on en parlait, il y a aussi une forte mise en avant dans les emballages,
Ils se concentrent là depuis peu sur les emballages, stop au plastique. Les fabricants se mobilisent, il y a une réelle prise de conscience. Ils travaillent leur packaging pour dépoussiérer l'image. Alors l'image du jouet emballé dans un plastique, mais aussi l'image du jouet ancien, français, un peu poussiéreux. Et ils misent sur une exposition en avant sur l'emballage du logo France bleu, blanc, rouge, qui permet de valoriser le lieu de production ou le lieu de création.
Et même chose pour les enseignes.
Oui, alors les spécialistes français leur donnent une vraie exposition. On a par exemple Jouet Club. Eux, ils exposent bien, mais comme d'autres, comme Oxybus, comme la Grande Récré ou King Jouet, ils exposent dans les rayons les jouets français. Les jouets français, on l'a dit, c'est une niche. Donc normalement, dans la grande distribution, quand c'est une niche, on ne va pas forcément les mettre en avant. Mais là, bien au contraire, on va mettre en avant le jouet français. Et l'un d'eux me disait, par exemple, j'ai un client qui me dit, je cherche un jouet pour un enfant de 6 ans. Eh bien, je privilégie le jouet français. On va conseiller en priorité celui qui est fabriqué en France.
Que dit notre coach ?
Il y a le fabriqué en France. J'ai vu aussi qu'il y avait les emballages carton qui sont en train de remplacer évidemment les emballages plastiques. C'est ce que vous avez dit, Elisabeth. Et puis il y a ce, rappelons, c'est jamais trop de le rappeler, cet océan de plastique. Je rappelle ce que
gardons
c'est.
Gardons tous cette image.
Voilà, 6 fois la France. 6 fois la France. 1/3 des États-Unis. Et pas sur 1 cm en surface, sur 30 mètres. Donc il y a une réalité. C'est là où on a dans notre main, désolé, je vais refaire mon petit laïus là-dessus, mais on a un bulletin de vote phénoménal, bien plus grand qu'un bulletin de vote classique, c'est la carte bleue. C'est-à-dire qu'en achetant un produit qui utilise moins de plastique, on fait changer le monde 1000 fois plus vite qu'on ne le fera jamais avec un vote. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le monde du jouet pour traiter ce problème du plastique?
Philippe Guédon.
Écoutez, les choses évoluent sans doute pas assez vite, mais ça a été évoqué. Je pense qu'il y a quand même une vraie prise en conscience des fabricants de ce qui est ce phénomène. Et puis pour le coup, là aussi, et ça va sans doute que les fabricants français ici représentés vont rebondir là-dessus, c'est encore plus une particularité des fabricants français. Je pense que globalement, il y a une prise de conscience, mais je pense que pour le coup, s'il y a un élément qui est aussi différenciant chez les créateurs et fabricants français, c'est aussi cette capacité à produire des produits dans lesquels le plastique est moins présent.
Moins présent.
On reste ensemble, on continue ce débat dans un instant sur Europe 1.
Il est 13h28.
Europe 1.
Qu'attendez-vous des acteurs français du jouet? Venez leur poser vos questions. 39-21, on est là pour vous. C'est la France qui bouge.
La France bouge sur Europe 1 jusqu'à 14h tous les jours avec Raphaël Duchemin et ses invités. Aujourd'hui, on parle des jouets français, des jouets made in France qui seront peut-être au pied du sapin. Vous pouvez réagir à cette émission, témoigner, poser toutes vos questions. N'hésitez pas, c'est maintenant au standard d'Europe 1, le 39-21 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag Europe 1 Raphaël.
Oui, ils y seront si vous avez été sage, Anissa,
bah,
comme
bien
d'habitude.
Bien sûr, c'est la condition. Oui.
Nous sommes toujours avec Elisabeth Assayag et Nicolas Chabanne qui est notre coach aujourd'hui. À nos côtés, Philippe Guédon, directeur général de King Jouet. Thierry Winstel, fondateur des jeux Bioviva, et Céline Toledano, fondatrice de Coxigru, de nouveaux jeux de société créatifs. On parlait plastique justement, juste avant cette petite interruption. On parlait plastique et je crois que vous aviez envie de réagir justement. Comment est-ce que vous faites, Thierry Winstel, pour gérer cette problématique?
Alors nous, c'est clair, depuis 22 ans, on a banni le plastique, les piles, pour des simples questions environnementales. Je pense que là où la filière a progressé, c'est sur ces questions d'impact environnemental. Nous, on a pris ça à bras-le-corps en termes de bilan carbone et d'ACV. C'est notre deuxième salve. Et honnêtement, ça coûte cher. Ça nécessite un travail énorme. Mais je pense que la qualité est au rendez-vous et je pense que ça va payer à terme parce qu'encore une fois...
Ça veut dire qu'il n'y a pas du tout de plastique, par exemple, pour entourer la boîte, pour la fermer.
La seule chose qu'on est obligé de faire, et elle émane des distributeurs, c'est d'emballer par une espèce de cellophane à cause du vol, mais on a réussi à faire plier un distributeur sur nos petits jeux de ne mettre qu'un petit autocollant pour justement les inciter et leur montrer qu'on peut réduire la quantité de plastique.
C'est possible.
Et les gens ne vont pas voler. C'est faux de croire qu'ils vont se mettre à voler une carte d'un petit jeu. Donc il faut les forcer à changer et à tirer toute la filière vers le haut.
Même comportement chez vous, Céline, Cécile Toledano, pardon.
Tout à fait. Moi, j'ai développé des jeux dans lesquels je voulais que tout puisse être utilisé. C'était aussi le principe. Donc la seule chose qu'on ne va pas garder dans les jeux de Coxigru, c'est le support des autocollants. Tout le reste est réutilisé, donc on ne jette rien. Et effectivement, j'ai été aussi obligée et contrainte comme vous de mettre un film plastique autour des boîtes. Mais si je pouvais m'en passer, je le ferais volontiers.
Alors, on a quelques questions pour vous. Évidemment, on a Soldat Guerrier sur Twitter avec le hashtag Europe 1 qui nous dit « Quel jouet français est le plus acheté pour les fêtes de Noël de cette année ?» Eh bien, je me tourne vers vous, Philippe Guédon.
On va sortir des deux fabricants.
Bon, allez, en dehors des jeux BioViva.
Non, je vais me faire des amis. Il est difficile d'en citer qu'un. Moi, je pense qu'il y a quand même des marques. Il y a la marque Vully avec sa célèbre girafe.
Sophie, on les a reçues ici, hein, on les adore.
Ah, puis ils sont extraordinaires à l'export. C'est vraiment une. Ils portent le savoir-faire français.
Oui, avec l'arbre magique aussi.
Exactement.
Et sa nouvelle version.
Qu'ils ont refait cette année là, et qui est. Il y a quelques jours chez eux, ils arrivent à peine à tenir la production. Enfin,
ils sont dans votre région d'ailleurs.
Exactement, à Rumilly, à côté d'Annecy. Donc j'en ai cité un. On peut citer aussi une marque dont le nom est emblématique. Une partie de la production est encore française, c'est Mécano. On parle beaucoup de Lego, mais souvent aussi dans les magasins, on a des grosses demandes sur ce genre de produits. Et puis après, je vais citer celui qui, par la taille, est le plus important, à savoir le groupe Smobiz, donc qui est basé à côté d'Oyonnax, donc qui fait beaucoup de jouets d'imitation, qui fait aussi beaucoup de jouets de plein air. Donc voilà, je suis arrivé aux trois et en espérant avoir pas fâché trop de monde à côté de ça.
Dites-moi, pour 2019, il y a des nouveautés qui arrivent chez King Jouet. Vous allez finalement faire comme beaucoup d'entreprises aujourd'hui, vous allez venir nous livrer à la maison ?
Alors, l'objectif, en même temps que nous allons évoluer sur un format encore plus urbain, donc de proximité, c'est pouvoir aussi offrir ce service aux clients qui n'ont pas toujours la capacité d'ensuite de pouvoir ramener chez eux au travers, avec des problématiques de transport en commun et autres que vous connaissez bien à Paris,
oui.
On les connaît un peu moins en province, de pouvoir donc les livrer à domicile. C'est vraiment quelque chose sur lequel on veut pousser parce que finalement, quand on réfléchit à ce qui est aujourd'hui la valeur ajoutée des sites e-commerce, cette notion de simplicité dans la livraison est un des éléments important. Et c'est pour ça qu'avec nos outils digitaux, nos clients ont la capacité chez eux, enfin la possibilité chez eux de faire déjà un peu leur pré-choix, de commencer à regarder ce qu'ils veulent acheter, de venir ensuite au magasin rencontrer nos équipes, nos experts vendeurs, parce que ça reste d'après moi l'élément différenciant avant tout par rapport à Internet, et le cas échéant, s'ils le souhaitent, d'être ensuite livrés à leur domicile.
Anissa, on a des messages.
Oui, on a une question de Solène sur la page Facebook, parce que vous pouvez écrire sur Twitter, mais aussi sur Facebook. Solène nous dit « J'ai l'impression qu'on ne parle que de jouets en bois ou de jeux intelligents. Quid du pur divertissement ? Y a-t-il une poupée française, des voitures françaises, une console de jeux française ?» Les enfants aiment ça aussi.
Oui, on les a cités, hein, Elisabeth, tout à l'heure.
Il y a
les poupées Corolle. On a aussi pas mal de marques, notamment des petites dinettes françaises. Hein,
fabricant français qui est Coiffier, qui fait aussi des...
Exactement, on les a reçus ici même sur Europe 1. Il y a des jouets en bois, on en a parlé.
Il y a
Je Jura, il y a Calou, il y en a d'autres aussi, plus petites.
Jura Toys, qui fait toute une gamme de produits aussi, qui sont là de l'imitation, mais plutôt sur une base de bois.
Et les moulages Mako.
Et les moulages Mako, il suffit de regarder. Regardez effectivement le petit logo hein, sur les boîtes en carton la plupart du temps. Nicolas.
J'ai une question. Vous parliez donc de l'intérêt aussi d'aller en magasin pour rencontrer un conseiller. Qu'est-ce que c'est le conseil ou les questions les plus posées en magasin ?
Alors, ça dépend de... On a tous les cas de figure. Hein. On a les parents qui arrivent avec une liste où il y a eu un découpage du catalogue de Noël. Donc, il suffit de reconnaître. Alors, c'est pas toujours sur nos catalogues, d'ailleurs. Je pense qu'à un moment, on devrait presque faire un catalogue unique pour tous les distributeurs.
Oui, c'est vrai.
Parce que, là aussi, on fera un peu d'économie. Il y aurait moins de
gâchis. Hein.
Moins de gâchis. Ouais.
Ça part d'ici.
Et les chroniques, en plus, pas besoin de le faire en papier.
Aussi. Mais les enfants
ah,
sont attachés.
Ils aiment bien découper, coller, voilà. Hein.
Donc il y a ça, il y a les grands-parents qui arrivent avec un message où souvent le mot est complètement, enfin le nom du jouet est complètement, comment dirais-je, trituré.
Écorché, ouais.
Et il faut déjà décoder pour voir ce que... Donc on a un peu tous les cas de figure. Souvent aussi, et ce qui prouve que nos magasins doivent évoluer, d'ailleurs c'est aussi un des axes que l'on va voir, c'est qu'en fait les jouets, pour des parents en tout cas, c'est un peu la caverne d'Ali Baba, ils ont du mal à se repérer. Donc ils savent dans la plupart des cas, ce qu'ils veulent, mais ils n'arrivent pas à trouver le jouet dans le magasin. Donc, nos vendeurs ont déjà un rôle, c'est d'amener les clients jusqu'au jouet pour leur montrer, et puis, le cas échéant, répondre à leurs questions s'ils ont des questions complémentaires sur l'article.
On en a une de question, enfin, une forme de question de Guiguise sur Twitter qui nous dit « C'est trop cher les jouets créés en France, on ne peut pas acheter une petite voiture à 10 euros l'unité, trop onéreux, tu m'étonnes qu'ils coulent les entrepreneurs français. » Bon, alors, on lui répond quoi, Thierry Vinister ?
On lui répond que malheureusement, ce n'est pas tout à fait vrai. Nous, par exemple, notre pari, c'est de dire c'est le meilleur rapport qualité-prix éthique. Nous ne sommes pas plus chers et parfois moins chers que nos concurrents qui font fabriquer en Asie. Oui, c'est possible, mais par contre, ça nécessite encore beaucoup de travail et surtout beaucoup d'écoute des clients, parce que c'est eux qui ont la solution et c'est à nous de bien prendre en compte leurs attentes. Donc oui, il faut faire attention au prix, mais oui, il faut continuer à faire la qualité.
Et en tout cas, on nous félicite hein, pour vos jeux, notamment Bioviva et Coxigru. Et hop, un jeu Bioviva édition pour Noël et un Coxigru pour son anniversaire, nous dit Elisabeth sur Twitter. Voilà. Et on a Mathie qui nous demande où on peut acheter vos produits. On va évidemment mettre tout ça sur notre site internet. Merci en tous les cas d'être venu nous aider à faire la liste pour le Père Noël.
Merci
aujourd'hui
à vous.
Sur
Merci
Europe 1.
Il est 13h38.
Europe 1.
Elle fête ses 110 ans aujourd'hui, Magnetta et l'entreprise qui va bien. Merci.
Jusqu'à 14h sur Europe 1, la France bouge et aujourd'hui, comme chaque jour, vous nous présentez une entreprise française, Cocorico, qui va bien. Et celle-ci, elle a 110 ans aujourd'hui.
Et cette entreprise, eh bien, c'est Magnetta. Bonjour Hervé Lefebvre.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. C'est vous qui êtes à la tête désormais de cette entreprise créée en 1908, à l'époque, sa spécialité, on peut le dire, hein, c'était l'horlogerie industrielle, c'est ça ?
Oui, absolument. Horlogerie industrielle.
C'est quoi l'horlogerie industrielle ?
Les horloges de gare, les horloges que nous avions dans les bâtiments scolaires, dans la rue, partout où nous avions besoin d'avoir tant l'heure que l'heure exacte. Marché qui a évidemment fortement décliné avec l'apparition des nouvelles technologies et notamment d'horloges très fiables et peu chères.
Alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est que Magnetta a construit son succès en commercialisant en fait les horloges électriques Brillier qui, à l'époque, je crois, étaient le principal constructeur français. Et Magnetta, ça n'est pas totalement un hasard, si ça s'appelle comme ça.
Voilà, c'est un brevet de Martin Fischer, qui est zurichois, et qui a développé cette technologie particulière, magnétique hein, d'ailleurs, bien sûr, dans le monde entier, avec beaucoup de succès, notamment par la proposition de ces horloges en location. Alors que les systèmes d'horlogerie nécessitaient, vous savez, toujours l'heure été, hiver, d'être remonté, beaucoup d'entretien. Et ça a été donc par l'écoute des besoins de la clientèle, déjà à l'époque. On verra tout à l'heure que la nouvelle activité de la société vient aussi de l'écoute de ses clients. Un grand succès, mais qui a décliné et qui nous a amené à nous réinventer.
Alors, l'entreprise à l'époque, elle est dans une famille qui n'est pas la vôtre, mais vous arrivez, enfin votre père arrive et reprend cette entreprise, cette Magnetta. On est en 1986, c'est ça ?
Absolument.
Pourquoi est-ce qu'il a envie de la reprendre ? Qu'est-ce qui lui donne finalement l'occasion d'arriver sur ce marché-là ?
C'est un entrepreneur, fils d'entrepreneur. Je suis moi-même petit-fils d'entrepreneur dans les systèmes de téléphone à l'époque. Et mon père a une opportunité. C'est un entrepreneur. L'entreprise Magnetta, à vrai dire, décline un peu à ces débuts des années 1980 par une direction un peu vieillissante. Et je crois que ce challenge qu'il a, c'est de se dire il faut maintenir l'emploi, maintenir une activité industrielle qui doit pouvoir renaître et se réinventer. Et ça sera le cas d'ailleurs, parce que
vous allez
chez vous, vous avez ces horloges encore à diode hein,
oui,
qui tournent dans le studio.
Ici, ouais.
Et nous avons été l'entreprise qui vous les a installées. Il
avec
y a déjà quelques années.
Les secondes, hein, les grands succès, secondes rouges, qui, les petits points rouges qui marquent les secondes.
Grand succès marketing.
Exactement.
Voilà. C'est Magnéta.
Alors, vous avez entre-temps bifurqué, vous vous êtes tourné, comme d'autres acteurs du secteur d'ailleurs, vers une nouvelle activité, le pointage, les agents de sécurité, et puis vous vous êtes, vous, spécialisé dans la sécurisation des travailleurs isolés. Pourquoi ?
Eh bien, c'est une opportunité commerciale qui est venue par la demande de la clientèle, la nécessité, nous aussi, de nous réinventer, de maintenir cet esprit de challenge, cette entreprise, défendre l'emploi, défendre cette entreprise française, représenter la technologie qui existe quand même. Et je vous dirai tout à l'heure quels sont les moyens que nous avons aujourd'hui de voir l'avenir avec sérénité. Et cette opportunité... par les entreprises de sécurité qui utilisent des systèmes de contrôle de ronde. Alors le contrôle de ronde, c'est à l'époque des systèmes d'horlogerie, entre l'horlogerie et la sécurité, nous font évoluer en 1992 à travers un décret qui vient obliger les entreprises à sécuriser leur personnel.
Que dit notre coach, Nicolas Chabanne ?
Alors, vous n'avez pas encore expliqué précisément de quoi il s'agissait, alors je vais me risquer à essayer d'avoir peut-être compris, mais on parle des travailleurs isolés qui ont besoin de se signaler, de se manifester. Est-ce que c'est le principe ?
D'être sécurisé aussi.
Parce que
j'ai
vu 15%, alors pareil, je vous prépare et vous le savez tellement bien, toutes ces émissions, j'ai vu que 15% de travailleurs se sentaient isolé dans ce cadre et ce statut. Qu'est-ce que c'est être isolé quand on est au travail ?
Alors, il y a ce sentiment d'isolement, le sentiment, et puis il y a la réalité. L'isolement est une notion donc codifiée par les textes en 1992, très européenne, française aussi, qui vient avec malheureusement le déclin du nombre d'employés présents sur un site à une tâche. Nous ne travaillons plus en binôme, nous travaillons seuls. Ça a été très vrai dans le monde du gardiennage à partir des années 90 pour des réductions de coûts, malheureusement.
Donc ça permet à toutes ces personnes, finalement, s'il y a un problème, d'avoir un lien grâce au système que vous mettez en place. Vous êtes toujours à Aubervilliers ?
Alors, à Paris, oui. Près d'Aubervilliers, mais dans Paris, et dans Paris depuis 110 ans.
Et vous êtes
toujours, parisienne.
Toujours 19, c'est ça ?
Et nous sommes 19 personnes, avec un fort attachement au développement social de nos équipes, de 19 à 64 ans, des gens qui ont beaucoup d'ancienneté. Et pour revenir rapidement sur la technologie, donc ce que nous faisons, c'est permettre à quelqu'un qui est seul de signaler un incident de santé, malgré lui. Je chute, j'ai un problème cardiaque, je ne bouge plus. Le système va automatiquement prévenir de cette situation de danger et permettre aux gens qui sont seuls d'être secourus à bref délai.
Une détresse psychologique aussi, peut-être mentale. Parce qu'on devrait tous avoir ça. On peut signaler à son chef très rapidement qu'on est dans une situation...
Ça, c'est un autre débat, Nicolas. C'est Magnéta, c'est l'entreprise qui va bien et qui fête donc ses 110 ans aujourd'hui. Merci, Hervé Lefebvre, d'être venu nous en parler sur Europe 1.
Il est 13h47.
Europe 1.
Récupérez vos gobelets en plastique pour en faire de nos vos objets. C'est GobUse et c'est la solution. Dans un instant sur Europe 1.
La France bouge sur Europe 1 tous les jours jusqu'à 14h et tous les jours juste avant 14h. Raphaël Duchemin, vous nous présentez la solution du jour et celle d'aujourd'hui va peut-être enfin aider notre planète à respirer.
Oui, regardez bien autour de vous, il y a certainement encore des gobelets en plastique qui traînent, notamment dans les entreprises. Alors, un entrepreneur a trouvé la solution, Elisabeth, et ça s'appelle GobUse.
Oui, cette start-up qui a à peine un an fabrique une borne qui permet la collecte de tous les plastiques jetables que l'on trouve, par exemple, à l'intérieur des entreprises. Alors évidemment, à l'intérieur des entreprises, on pense aux gobelets. Environ 600 gobelets par an, par entreprise, sont utilisés. Tous les types de gobelets en plastique que l'on trouve dans les bureaux. Et cette borne, elle est en carton recyclé. Et la particularité de cette borne, c'est qu'elle est fabriquée et installée par des travailleurs en situation de handicap. Les gobelets sont recyclés pour fabriquer des nouveaux objets, notamment avec des imprimantes 3D.
Bonjour Mathieu Lecazzi.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de GobUse.
Oui.
Concrètement, je travaille dans une entreprise qui met à la disposition de ses salariés encore des gobelets en plastique.
Oui.
Comment est-ce que je fais pour changer ?
Alors, très très simple. Vous faites appel à nous.
Mais le message est passé.
D'accord. Non, c'est assez simple. On va étudier d'abord votre besoin, mm-hmm. votre consommation. On a cité tout à l'heure 600 nombre de gobelets plastiques par salarié chaque année français. Et puis à la suite de
par
ça,
salarié,
par salarié, oui.
Donc à la
c'est
suite
énorme.
De ça, oui, c'est considérable, exactement. Donc à la suite de ça, on va pouvoir nous déployer nos bornes. La collecte se déroule. On a aussi en parallèle des actions de sensibilisation, bah, soit pour développer la collecte, soit pour amener le salarié, le collaborateur à se motiver pour la collecte. Et puis, nous faisons le ramassage. Nous assurons toutes les étapes intermédiaires jusqu'à la revalorisation effective des gobelets plastiques en nouveaux objets.
Donc, vous les remplacez, les gobelets. Et en plus de les ramasser, vous les recyclez. Vous les recyclez en quoi ? Comment ?
Exact. Alors, on va dire le débouché, la possibilité d'objets qu'on peut créer avec des imprimantes 3D, elle est quand même assez on va dire diverse et variée. On a la possibilité de créer des objets qui pourront aller du
simple
pour le
bureau, pour l'entreprise.
Pour le bureau, pour l'entreprise, du simple par exemple, ça peut être un sport de matériel informatique.
Alors on l'a ici hein, si vous nous suivez sur europe1.fr, voilà le petit support que vous avez fabriqué
avec la start-up qui s'appelle 3D Phénomène avec laquelle on travaille. Sans l'impression 3D.
En plusieurs coloris,
exact.
Je précise.
Des petits supports pour smartphone.
C'est ça. Pour smartphone, tablette et compagnie. Puis, ça peut aussi aller sur des objets beaucoup plus complexes, comme une prothèse pour un membre amputé.
Alors c'est pareil. On a ici, hein, c'est formidable. Voilà.
Avec ça, les doigts. C'est fait avec des gobelets en plastique.
C'est ça, sur des gobelets en plastique, ouais.
Absolument incroyable. Ouais. Et alors, vous êtes combien de salariés dans votre entreprise aujourd'hui,
alors,
après un an d'existence ?
Aujourd'hui, on est à peu près 5. Voilà. Et pour l'instant, je suis le seul à temps plein.
Le seul à temps plein, ça veut dire que vous avez commencé à réfléchir à grandir, dites pour l'instant.
Exact, ouais. On va dire que l'exposition et le succès sont plutôt au rendez-vous. Et puis, ça nous permet de pouvoir grandir. Notre solution plaît, notamment en Essonne où on est installé. Plus largement sur le territoire Grand Orly-Seine-Bièvre où on évolue aujourd'hui et qui nous permet de pouvoir avoir des perspectives d'évolution, notamment au niveau des ressources humaines, oui. Île-de-France et France entière.
Que dit notre coach, Nicolas Chaban ?
On reçoit un héros du monde nouveau, Mathieu, ouais. Parce que mon sentiment, il est simple. Il faut redonner la valeur des choses. Ouais. Quand vous offrez, et j'espère pouvoir vous en acheter un tout à l'heure, ce support là, pour téléphone, mm-hmm. que vous pouvez expliquer que ce n'est pas simplement un objet en plastique qui permet de,
qui vient d'Asie.
Tenir un téléphone, mais que ça a empêché à des gobelets de se retrouver dans ce fameux océan de plastique absolument insupportable pour tout le monde, la valeur naturelle de cet objet devient immense. Voilà comment on peut redonner de la valeur à des objets en tout genre et à des biens de consommation. Bravo. Encore un bravo dans cette émission. Et merci à l'émission de parler de vous.
Merci beaucoup.
Vous êtes tout petit aujourd'hui. On espère que vous serez très grand.
Merci beaucoup.
Et je précise qu'il y a aussi, pour ceux qui sont en retard, qui n'ont pas encore fabriqué le sapin, il y a aussi de très belles boules de Noël à accrocher.
Vous les vendez sur votre site ?
Sur le site,
oui,
on peut les trouver, on peut vous les acheter,
trouver.
Ça coûte combien ?
Alors, je ne veux pas révéler le prix, mais
c'est assez accessible. C'est un geste, en tout cas, à faire. Merci d'être venu nous parler de GobUse, évidemment. Nicolas, à bientôt.
Mais joyeux Noël.
Bah oui. Et puis nous, on se retrouve demain. Nous irons livrer les colis demain à la Française, bien sûr.
Ils ont du boulot, hein.